Bien, bonjour à tous. Vous m'entendez? Sans problème, d'accord. Merci. Donc déjà, je vous remercie de m'accueillir. Voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, d'avoir partagé ce temps de louange, et puis maintenant de partager avec vous un morceau de la parole de Dieu. Que cela nous remplisse. Et continue de former notre cœur. J'aime beaucoup cette expression de Paul qui dit afin que Christ soit formé en nous. C'est un peu vertigineux, mais c'est vrai. Que Christ soit formé en nous par son esprit, par la parole de Dieu. Je suis le fils aîné de quatre frères et sœurs. Mes parents appartiennent à la bourgeoisie de Genève et sont très engagés dans l'action sociale concrète. Et ils y impliquent aussi leurs enfants. À l'âge de 6 ans, je pars avec ma famille en vacances, non loin de Toulon, et mon père profite de ce voyage pour s'informer des conditions de détention des prisonniers du centre pénitentiaire de Toulon. Je l'y accompagne lors de ses visites et j'en suis profondément affecté. À l'âge de 18 ans, je m'engage dans le mouvement chrétien dit du réveil. J'y rencontrerai entre autres César Malan, connu pour ses nombreux cantiques. Je serai aussi l'un des 10 fondateurs de l'association YMCA, Young Men Christian Association. Mais il y aura une date, un lieu et un événement imprévu qui bouleverseront tout le cours de mon existence. La date, juin 1859. Le lieu, Solferino en Italie du Nord. L'événement, une bataille terrible. L'armée de Napoléon III affronte l'armée autrichienne de l'empereur François-Joseph. Les combats se terminent par la défaite des Autrichiens. Pour des affaires personnelles, j'ai rendez-vous avec Napoléon III. Le chemin me menant à lui passe tout près du lieu où la bataille vient de s'achever. Il s'y trouve encore de nombreux morts et plusieurs milliers de blessés qui crient leurs horribles souffrances et agonisent sans que personne leur vienne en aide. Mon cœur est bouleversé. Le spectacle m'ébranle au plus profond de moi. Il est tellement insupportable qu'il me conduit à dresser un hôpital dans l'église de Castiglione, la ville la plus proche, avec l'aide de la population civile locale. Seuls 500 blessés seront soignés sur un total de 10 000 concernant les deux camps. 3 années plus tard, les blessures, les hurlements, l'odeur pestilentielle hante encore mon esprit. Cette expérience décisive me conduit à écrire un livre intitulé Un souvenir de Solferino et à créer en 1863 une association qui connaît rapidement une consécration internationale. la jalousie d'un des dirigeants et la faillite de ma propre société de moulins en Algérie me contraignent à démissionner de l'association 4 années plus tard, en 1867. Qui suis-je ? Henri Dunant, la Croix-Rouge. Merci. Pourquoi cette biographie ? Henri Dunant a grandi dans une famille protestante qui montrait un grand intérêt à leurs prochains les plus défavorisés. Henri hérite de cette sensibilité. Cette double prédisposition l'a préparé à cette journée de juin 1859 à Solferino. Henri a été profondément et durablement bouleversé et il a été ému de compassion. Devant les souffrances atroces des blessés laissés pour compte sur le champ de bataille. Bien sûr, il y a d'autres exemples, comme celui que vous connaissez sans doute aussi, de Georges Muller, au même siècle, mais pas tout à fait au même endroit, puisque c'était à Londres, qui a été ému de compassion par la misère des enfants à Londres, et qui fondera un orphelinat à Bristol. On considère qu'il accueillera environ 10 000 enfants au cours de sa vie. Plus proche de nous, il y a encore l'abbé Pierre, ému de compassion par les sans-logis durant l'hiver meurtrier de 1954. Son appel rencontre un écho extraordinaire en un temps record. Et on voit encore aujourd'hui des œuvres, Emmaüs, n'est-ce pas, que chacun de nous connaît. Cette expression, ému de compassion, occupe souvent mon esprit. C'est sûrement parce que j'en manque. Elle est citée 9 fois dans la Bible. 7 fois à propos de Jésus, quand il croise des malades, un lépreux en particulier, ou une foule désemparée. Et 2 fois, moi ça fait, je suis trop près du micro, vous pensez, ou il faut que, non, ça va? Ok. 2 fois dans la bouche de Jésus, et appliqué à 2 magnifiques paraboles. Vous avez un peu une idée des 2 paraboles? Le fils prodigue, le père ému de compassion, qui voit son fils arriver. Et puis? Le bon samaritain. Le bon samaritain qui est ému de compassion. Les 2 religieux, qui peut-être nous ressemblent, sont passés tout droit, et le Samaritain, de qui on n'attend généralement rien, c'est lui qui s'est arrêté, qui a été ému de compassion. Il s'est arrêté et vous connaissez la suite. Si on faisait un tout petit peu d'étymologie, je ne suis pas un grand savant, mais il y a des bouquins qui aident. Hein. Tout d'abord, ému, du verbe émouvoir, qui vient du latin classique, et signifie mettre en mouvement, ébranler, remuer, toucher. Ensuite, compassion. Compassion vient du latin cum patior. Souffrance avec, ou je souffre avec. Donc, ému de compassion, on pourrait formuler un peu ça comme ça. Je mets en mouvement, je suis touché de ce que je souffre avec telle ou telle personne ou telle situation. Dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 26, l'apôtre Paul dit ceci. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Ça, c'est être ému de compassion. En grec, c'est intéressant de voir que l'expression évoque les entrailles. Tout de suite, on pense à une expression de l'apôtre Paul, hein, qui parle d'entrailles de miséricorde. En Colossiens 3, au verset 12, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde. Ou soyons émus de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » On comprend que pour Dieu, il y a l'émotion de la compassion, mais on pourrait dire que c'est une première marche. Elle ne s'arrête pas là. Cette compassion doit être en mouvement. Ce mouvement, par exemple, on a eu à travers Henri Dunant, à travers l'abbé Pierre, on a vu le mouvement. Ça se traduit par quelque chose de concret. Est-ce que comme Jésus, je suis ému de compassion? Connaissons-nous parfois ou souvent l'intensité de la compassion? Les fameuses entrailles de miséricorde vis-à-vis de nos prochains. Bien sûr, là aussi, il y a l'émotion profonde, la compassion, mais elle doit se prolonger jusque dans l'acte. Et l'acte est toujours possible. Il y a un acte qui est toujours possible, la prière. C'est toujours possible. On ne peut pas toujours agir, mais la prière, c'est toujours possible. Paul dit « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » C'est un habit à mettre tous les jours. Il n'y en a pas de plus beau sur cette terre pour les enfants de Dieu. Il n'y a pas de plus bel habit que celui de la compassion. Demandons à Dieu de nous aider à revêtir cet habit chaque jour. C'est quand même une composante du deuxième commandement, ni plus ni moins. Donc ça a un caractère quand même prioritaire. Cet habit existe dans toutes les tailles et pour tous les âges. Et puis, confectionnons-le aussi pour nos enfants, comme les parents d'Henri Dunant. Invitons également les membres de notre communauté à revêtir cet habit les uns vis-à-vis des autres. Et je rêve avec un peu d'humour, organisons un magnifique bal costumé de compassion. Quel meilleur exemple que celui de Jésus ? Quand Jésus est ému de compassion, cela se traduit pratiquement par des mots d'encouragement, des soins de toutes sortes, des gestes, des regards, des guérisons miraculeuses, des délivrances, des recommandations, des paroles d'encouragement. Tout ça vient de ce que, quand Jésus rencontre quelqu'un, il est ému de compassion. Bien souvent, il embauche, on pourrait dire, ses disciples pour les impliquer à sa propre démarche. Comme dans les deux épisodes, de la multiplication des pains. Et je vous propose d'en prendre un dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Et j'aimerais lire avec vous les versets 13 à 21. Alors bien sûr, on le sait, hein, cette même scène se reproduit dans les trois autres évangiles. Donc il y a des commentaires que je ferai qui puiseront un peu, je vous le signalerai, mais dans les autres passages parallèles. Donc je vais vous lire les versets 13 à 21 de cette scène où on voit Jésus ému de compassion. Et on va voir ce qu'on va en tirer ensemble. Versets 13 à 21, dans la version Louis II. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alors très simplement, je vous propose qu'on regarde ce passage davantage sous l'angle du miracle de la compassion que sous celui du miracle de la distribution. Même si de la multiplication et de la distribution, même si le deuxième découle du premier. Je vous propose également qu'on considère l'attitude de Jésus et ensuite celle des disciples. L'épisode de la multiplication des pains fait suite à la décapitation de Jean-Baptiste par Hérode Antipas. Jésus est très affecté de l'exécution de son cousin. Au bord du lac de Galilée, il vient de raconter plusieurs paraboles aux foules, on voit dans le chapitre 13. Et il a accompli beaucoup de miracles, on voit ça aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Et prenant une barque, il rejoint un endroit à l'écart pour prier. Mais la foule le traque, et on pourrait dire le cueille au sortir de la barque. Voyant cette grande foule, on dira qu'il y a environ 30 000 personnes, puisqu'il y a 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait beaucoup d'enfants à cette époque-là, on n'était pas dans le culte de l'enfant unique ou voire des 2 enfants. Hein. On peut, je pense, sans forcer le chiffre, dire qu'il y a environ 30 000 personnes. Jésus est ému de compassion et ne s'esquive pas en raison de sa peine. Marc ajoute ceci, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Lui, le berger, il a senti ça dans sa compassion. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus est ému de compassion et ça change tout. Il laisse son besoin de solitude, son besoin de prier de côté et accepte de changer ses plans. Il le reprendra plus tard, on voit au verset 22 du même passage. Et il va agir de plusieurs manières. Jésus commence par les enseigner. On voit dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, il les enseigne sur le royaume de Dieu. Dans ce royaume, il y a un roi, un conducteur, un berger qui peut conduire cette foule sans berger. Puis il guérit les malades. Puis, dans cet endroit désert, et à cette heure tardive, il va les nourrir à satiété en accomplissant ce miracle de la multiplication des pains et en embauchant ses disciples à la distribution pour qu'ils s'approchent de cette foule, qu'ils la touchent et qu'ils touchent chacun, en particulier par le geste qu'ils vont faire en tendant le morceau de pain ou le filet du poisson. Puis Jésus fait ramasser les restes. Il y en a plus avant, il y en a plus après qu'avant. Tout ceci terminé, il reprend son chemin et monte à l'écart sur une colline pour prier. Jésus a été ému de compassion. Il a donné priorité à cette foule sans berger. Il a mis de côté sa peine et en une seule séance, on pourrait dire comme ça, hein, il leur parle du présent et de l'éternité. Il place ses auditeurs dans l'espérance de l'éternité en leur parlant du royaume de Dieu. Il répond aux besoins de leur âme, à eux qui sont si désemparés. Il répond aux besoins de leur corps en leur apportant la guérison. Il répond à la nécessité du jour en multipliant les pains. On se rend compte que quand Jésus est ému de compassion, ce n'est pas fugitif. Cela se prolonge par des actes qui font du bien autour de lui, qui font du bien dans le corps, qui font du bien à l'âme. Voyons maintenant le comportement des disciples et surtout leur niveau de compassion. Selon Marc 6, les disciples reviennent juste de la mission où Jésus les avait envoyés. Ils sont fatigués, Jésus le sait. Et il les invite à venir avec lui pour se reposer. Tout va bien jusque-là. Et tout nous semble normal. Mais il y a un imprévu. La foule s'impose par son omniprésence. Et aux surprises pour les disciples, contrairement à ce que Jésus avait dit quelques instants auparavant, Jésus commence à guérir les malades et à les enseigner. Je vois d'ici les disciples se dire entre eux, pourtant, il nous avait bien dit qu'on allait se reposer, qu'on allait être à l'écart. Et là, on se retrouve devant une foule de 30 000 personnes et on attend maintenant pour se reposer. Je ne sais pas vous, mais moi, dans ma vie, je n'aime pas les changements de programme. Mais pas du tout. Mes enfants me disent quelquefois que je suis un peu câblé en tableau Excel. Donc les programmes, voilà. Et surtout quand ces changements de programme exigent de moi de faire un effort supplémentaire. Quand je suis déjà fatigué. À peine Jésus a terminé son enseignement, qu'il se tourne vers lui en invoquant l'heure tardive et le lieu désertique pour conseiller à Jésus, avec bon sens, de renvoyer cette foule un peu envahissante. Ils sont fatigués. Ne les montrons pas trop vite du doigt. Mais oh, deuxième surprise, non seulement Jésus ne renvoie personne, mais au contraire, il invite ses disciples à les nourrir, vous, donnez-leur à manger. En Jean 6, on voit qu'après les calculs très comptables de notre cher Philippe, heureusement, il y a un petit garçon qui va débloquer la situation. André amène ce petit garçon à Jésus, qui ne possède que 5 pains et 2 poissons, André doit se dire, c'est bien ridicule pour la demande de Jésus. Mais Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Alors dans Marc aussi, Jésus demande explicitement à ses disciples de s'engager dans la démarche et de faire asseoir la foule par 50. C'est plus pratique. Jésus prie et le miracle se produit. Les 5 pains deviennent des milliers de pains. Les 2 poissons deviennent des milliers de poissons. Est-ce qu'on imagine ça? Alors Jésus demande à ses disciples de distribuer le pain et les poissons à la foule. Sur la base de 30 000 personnes, ça fait 2 500 par personne. Autrement dit, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Je pense que les disciples ont trouvé ça terriblement long. Et j'imagine, à la fin de la distribution, les disciples épuisés, à qui Jésus demande encore de ramasser les restes. On constate quand même, et encore une fois, on ne va pas leur jeter la pierre, qu'il y a peu ou pas d'expression de compassion chez les disciples. À travers les suggestions faites à Jésus, on devine qu'ils sont plutôt pressés d'en finir. Dès l'instant qu'ils entendent l'invitation de Jésus à donner à manger à la foule, donc il y a, et on se retrouve peut-être un peu là-dedans, il y a leur calculateur inconscient qui se met en route et qui fait dire à Philippe 200 deniers ne suffirait pas pour donner un tout petit bout à chacun. Ce calcul-là, on est très très vite capable de le faire, peut-être pour arriver à la conclusion, ouf, c'est impossible, donc on ne peut pas s'occuper de ça. Et puis alors, 5 pains et 2 poissons, c'est ridicule, ridiculissime, on pourrait dire. Mais si les disciples divisent, Jésus multiplie. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en soit conscient. Jésus multiplie. Nous, on soustrait, on divise, mais on ne multiplie pas. Et Jésus veut nous associer à multiplier avec lui. Personnellement, je trouve ces disciples un peu attristants. Mais aussi attristants que moi, quand je me trouve de mauvaises excuses. J'ai pourtant bien l'intention, je vous l'ai dit, cette expression émue de compassion me préoccupe souvent. J'ai toujours l'intention d'être ému de compassion. Mais quand la situation se présente, j'aimerais bien que ça ne me coûte pas trop cher. En temps, ou peut-être aussi en moyens matériels. Et c'est à ce moment-là que je vais me trouver de fausses excuses. Reconnaissons que notre cœur naturel n'est pas ému de compassion. Il faut que l'Esprit agisse en nous pour qu'on connaisse la compassion que Jésus a eue avec nous. Tout le long de son chemin sur cette terre, mais aussi cette compassion qu'il a eue pour aller jusqu'à la croix, donner sa vie, renoncer à tout, accepter d'être anéanti. Anéanti, c'est-à-dire accepter d'être rien. Accepter d'être pauvre pour qu'on soit enrichi. Voilà la mesure de compassion. Je sais, ça semble complètement incroyable et impossible pour nous de vivre ça, mais qu'on demande à Dieu de former nos cœurs pour que on ait un peu de compassion. qu'on soit ému de compassion comme Jésus l'a été. Souvent, devant la situation que Dieu met sur notre chemin, on propose, comme les disciples, avec un certain bon sens, l'alternative d'un autre programme. Parfois même un programme de repos légitime. Quelque part, c'était légitime, les disciples étaient fatigués. Ils revenaient de mission. Et notre raisonnement est extrêmement efficace pour réaliser des calculs à propos du moment choisi, des moyens nécessaires, de l'effort à fournir, sans parler en plus du jugement qu'on porte sur les personnes pour se dédouaner. Pour parvenir à la conclusion que c'est impossible, pour légitimer notre non-engagement, pour fermer notre cœur comme une huître. Il y a longtemps, à l'occasion de vacances, nous étions au Chambon-sur-Lignon, je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique petite ville. Je trouve qu'il y a un état d'esprit particulier dans cette ville. Tous les ans, à la même époque, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais à l'époque, il y a une vingtaine d'années, l'Armée du Salut montait une tente d'évangélisation. Pendant une semaine, et tenait une rencontre tous les soirs. Un soir, on était allé avec mon épouse et nos enfants. Le président de l'époque, je me souviens encore de son nom parce que ce qu'il a dit, c'est resté ancré dans ma mémoire, c'était McGowan. Il a pris la parole en posant la question suivante. Alors je vous la pose, la question. Savez-vous ce qu'il y a sur les portes des chambres d'hôtel du monde entier ? Pardon ? Numéro, oui, mais c'est pas ça. C'est la même chose, parce que les numéros changent. Tandis que ça, c'est la même chose. Il y a ne pas déranger. Les chambres d'hôtel nous ressemblent. On n'aime pas bien être dérangé. Et pourtant, on a envie, chacun de nous, j'en suis convaincu, on a envie de servir notre maître. Quand on contemple, comme ce matin on a contemplé son sacrifice, quand on a participé à la Sainte Cène, on a envie de servir notre maître. Mais on arrive très vite à nos limites et on a besoin de demander à Dieu de nous donner ce cœur de compassion, de le faire grandir en nous. Il nous faut apprendre à pratiquer le commandement numéro 2. Bien sûr, prioritairement, le commandement numéro 1 et le 2 découle du premier. La Bible le dit clairement. Il nous faut apprendre à être émus de compassion, à nous revêtir d'entrailles de miséricorde. Dans le chapitre 10 des Actes, au verset 38, il nous est dit que Jésus allait de lieu en lieu, c'est-à-dire qu'il ne se limitait pas à... Il n'était pas statique, c'est ce que je veux dire. Voilà. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. En 2 Corinthiens 8, au verset 9, il nous est dit que Jésus était riche, mais il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches de lui. N'oublions pas, enfin je suis convaincu de cette chose-là, personnellement, la puissance de notre témoignage commence par notre compassion pratique. Souvent, on fait de l'évangélisation à distance, vous comprenez, à distance du cœur. Et je pense que notre témoignage nécessite une attitude de compassion. Un petit passage de la Bible pour terminer. Et Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Combien de fois je passe outre ? Un lévite, ils savaient tous ces gens-là, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Quelle responsabilité ! Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Lui, il a marché à pied à côté. Et le conduisit à une hôtellerie. Puis il prit soin de lui. Puis le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Seigneur, on te demande que tu nous donnes un cœur de compassion, que tu nous bouleverses, que tu nous formes, et que nous ne passions pas outre, s'il te plaît, Seigneur. On te demande pardon, et moi je te demande pardon pour toutes les fois où je suis passé outre. Mais Seigneur, on se rend compte que des fois, le péché n'est que moral, mais c'est un péché, ça, Seigneur, de ne pas avoir fait ce qui était en notre pouvoir de faire. Alors, Seigneur, bouscule-nous, forme-nous, et qu'on sache répondre à notre prochain, qu'on sache être des témoins vivants, des témoins qui ont de la compassion. Merci Seigneur de faire cette œuvre par ton Saint-Esprit en chacun de nous. Amen.